This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il se dit totalement innocent dans cette affaire, dénonce un complot et parle même de fable. Début octobre, à Paris, Nicolas Sarkozy a été entendu pendant 40 heures par deux juges d'instruction dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Après ce marathon, l'ancien chef de l'État a été mis en examen pour un quatrième chef d'accusation dans ce dossier, association de malfaiteurs. Le 20 octobre, le Parisien a révélé le contenu de ses auditions, article signé Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. On fait le point sur ce dossier avec lui dans Code Source. Timothée Boutry, cette affaire éclate avec un article de Mediapart le 28 avril 2012, une semaine avant le second tour de la présidentielle, François Hollande-Nicolas Sarkozy. Le site publie un document présenté comme une lettre officielle de l'État libyen.
Oui, cet article intitulé « Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement » fait état d'un projet de l'État libyen de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Cet article paraît pendant l'entre-deux tours, donc il va avoir une résonance particulière.
C'est une infamie. 50 millions d'euros, pourquoi pas 100 pour une campagne qui en vaut 20?
Et c'est à partir de la publication de cet article et de ce document que va naître l'enquête sur le financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.
On parle bien là de la campagne 2007. L'article s'appuie aussi sur le témoignage d'un homme d'affaires, un certain Ziad Takieddine.
Alors Ziad Takieddine, c'est un intermédiaire franco-libanais, un intermédiaire en contrat en tout genre, en contrat d'armement notamment, qui est également apparu dans la quête financière sur l'attentat de Karachi, dans laquelle il a été condamné. Donc c'est vraiment un homme qu'on retrouve dans la confluence de toutes ces affaires financières, un peu politiques, toutes ces années-là, et notamment avec le Moyen-Orient. Il va vraiment devenir un des personnages centraux de cette histoire.
Une enquête est donc ouverte et en 2017, ce même Ziad Takieddine accuse très directement Nicolas Sarkozy et son bras droit, Claude Guéant. Il parle de remise d'argent liquide fin 2006, début 2007, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur.
Oui, c'est dans le cadre d'une interview filmée qui a ensuite été diffusée par le site Mediapart. Et Ziad Takieddine indique qu'à trois reprises, il s'est rendu au ministère de l'Intérieur.
Un jour, M. Sarkozy me demande si je peux être celui qui transporte une partie de ces sommes à Claude Guéant de l'Intérieur. Je dis, si c'est bon, mais comment faire entrer ça en France? Il me dit, le ministère de l'Intérieur sera informé, et donc tu rentres, il n'y a pas de problème.
Les deux premières fois, il a rencontré Claude Guéant, le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy. La troisième fois, il a rencontré Nicolas Sarkozy lui-même. Il a pu rentrer comme ça au ministère, aller dans leur bureau et leur remettre trois valises de cash.
Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur?
Bien sûr.
Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur?
Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh!
Est-ce que vous avez vu M. Sarkozy ouvrir la valise?
Non, non, pas du tout. Non. Ni ouvert, ni vérifié, ni rien du tout. On parlait tout de suite d'autre chose.
Devant les enquêteurs, d'anciens leaders du régime libyen de Muammar Kadhafi vont eux aussi affirmer que Nicolas Sarkozy a reçu des fonds en provenance de la Libye pour financer sa campagne électorale de 2007.
Oui, plusieurs anciens hauts dignitaires du régime de Kadhafi vont confirmer avoir projeté ou versé de l'argent à Nicolas Sarkozy, notamment Abdallah Senoussi, l'ancien chef des services secrets du régime de Kadhafi, ou Baghdadi Al-Mahmoudi, l'ancien premier ministre de Kadhafi.
En 2018, le 21 mars 2018, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue dans les bureaux de la police judiciaire à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Et le lendemain, il est mis en examen dans ce dossier.
Il aura clamé son innocence pendant de longues heures, tout comme souhaitait échapper à l'embarrassant statut de mise en examen, sans succès.
C'est évidemment un tournant, puisque Nicolas Sarkozy a toujours contesté le moindre financement de sa campagne. Et là, il est mis en examen pour financement illégal de campagne, pour corruption, des charges extrêmement lourdes et qu'il n'a de cesse de dénoncer.
Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et en ce moment même, Nicolas Sarkozy est de nouveau face au juge.
L'ancien président est entendu depuis ce matin au palais de justice de Paris. Il s'agit de l'affaire libyenne, ses soupçons de financement occulte de la campagne de 2007.
Cette année, en octobre, pendant plusieurs jours, les 6, 7, 8 et 12 octobre, Nicolas Sarkozy est entendu par les juges du pôle financier du tribunal de Paris, Aude Burezi et Marc Sommerer. Timothée Boutry, comment ça se passe concrètement?
Ce sont des auditions qui se déroulent en présence de Nicolas Sarkozy, évidemment, de son avocat Thierry Herzog et d'un représentant du parquet national financier qui assiste à tous les interrogatoires. C'est vraiment hors norme, une audition marathon, parce que 4 jours, c'est exceptionnellement long. Ça fait plus de 40 heures, 140 pages de procès-verbaux. On n'imaginait pas que ça durerait aussi longtemps.
Timothée Boutry, dans Le Parisien, vous avez révélé le contenu de ces auditions. Vous avez pu lire toute la retranscription de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy au juge. Ça va nous permettre à la fois de nous plonger dans ce dossier et de voir comment se défend l'ancien président. D'après l'enquête, tout commence à l'automne 2005. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur. Il va effectuer un voyage en Libye dans quelques semaines. Et pour préparer ce déplacement, deux hommes partent pour Tripoli, Claude Guéant et Ziad Takieddine. Là-bas, ils voient un certain Abdallah Senoussi.
Alors Abdallah Senoussi, c'est le chef des services secrets de Muammar Kadhafi, le guide libyen. C'est surtout un homme qui a été condamné en France pour son implication dans l'attentat du DC-10 d'UTA, qui avait fait énormément de victimes, notamment des victimes françaises. Donc c'est un homme qui est visé par un mandat d'arrêt international. Et donc, aux yeux de la justice française, il est considéré comme un terroriste.
Quel est le soupçon des juges sur cette rencontre?
Ils se demandent si ce n'est pas à partir de cette réunion que le pacte de corruption entre le régime de Kadhafi et Nicolas Sarkozy serait né, avec donc Ziad Takieddine à la manœuvre et Claude Guéant comme représentant de l'ancien président de la République.
Dans le bureau des juges, que dit Nicolas Sarkozy sur cette rencontre?
Nicolas Sarkozy dit que c'est une réunion préparatoire à une visite qu'il va effectuer quelques jours plus tard en Libye. Les juges lui demandent pourquoi ce n'est pas son conseiller diplomatique qui est allé faire cette visite, mais Claude Guéant, et il justifie par la proximité entre Claude Guéant et lui-même. En revanche, il apparaît que lors de cette visite, Claude Guéant, avec Ziad Takieddine, a rencontré Abdallah Senoussi. Et là, il va dire que c'est une erreur, qu'il n'avait jamais demandé une telle réunion. Il se démarre de Claude Guéant et ne valide pas le fait que Claude Guéant ait pu rencontrer Abdallah Senoussi en présence de Ziad Takieddine.
Toujours à l'automne 2005, comme prévu, Nicolas Sarkozy se rend en Libye le 6 octobre. Il rencontre le dictateur libyen, Muammar Kadhafi.
Le bédouin le plus célèbre au monde, connu pour faire patienter ses hôtes devant sa tente pendant des jours. Le colonel Kadhafi aura donc reçu Nicolas Sarkozy dès sa descente d'avion.
Est-ce qu'on sait ce qu'ils se disent?
Alors il y a un entretien d'une demi-heure environ entre les deux hommes qui fait l'objet de beaucoup de spéculations. Le traducteur de Muammar Kadhafi a dit à des journalistes français qu'il avait été question du financement de la campagne. Après, il a dit le contraire à d'autres journalistes, donc on ne sait pas trop. Quant à l'interprète de Nicolas Sarkozy, elle a toujours invoqué le secret professionnel pour ne pas révéler la teneur de cet entretien. Et devant les juges, Nicolas Sarkozy dit qu'il autorise son interprète à briser le secret professionnel et à révéler la teneur de cet entretien. Et il ajoute que c'est totalement délirant d'imaginer qu'il ait pu, comme ça, en présence présence de deux interprètes évoquer le financement de sa campagne par le dictateur Muammar Kadhafi. Et voilà, il dit non mais vraiment, comment pouvez-vous imaginer que j'ai abordé ce sujet-là en une demi-heure à la fin d'une rencontre officielle avec des personnes extérieures. Voilà, donc on peut imaginer que cette interprète sera convoquée par les juges et qu'elle expliquera ce qu'elle, elle a retenu de cet entretien en face à face.
Brice Hortefeux, lui aussi, va aller en Libye pendant 4 jours en décembre et ça étonne les juges.
Oui, ça étonne les juges parce qu'à l'époque, Brice Hortefeux est ministre délégué aux collectivités territoriales et il se demande pourquoi son portefeuille justifierait de se rendre en Libye. Et l'ancien ambassadeur de France en Libye lui aussi indique qu'il n'avait pas été informé en amont et il s'étonne lui aussi de la raison de cette visite. Donc c'est vrai que c'est intriguant. Ce qui se passe aussi, c'est que lors de cette visite de Brice Hortefeux, il y a à nouveau Ziad Takieddine et une nouvelle fois, ils vont rencontrer Abdallah Sunoussi, qui est donc le chef des services secrets de Kadhafi. Et là encore, comme il s'était démarqué de Claude Guéant, Nicolas Sarkozy, devant les juges, se démarque de Brice Hortefeux, son plus fidèle ami et allié politique, en disant il n'aurait pas dû rencontrer Sunoussi, il n'aurait pas dû se mettre entre les pattes de Takieddine, il s'est sans doute fait piéger. À deux reprises, sur ces rencontres tripartites, Takieddine, Guéant, Sunoussi et Takieddine, Hortefeux, Sunoussi, Nicolas Sarkozy dit ce sont des erreurs.
Abdallah Sennoussi, l'ancien bras droit de Kadhafi, va déclarer aux enquêteurs pendant l'instruction que Brice Hortefeux lui aurait remis le RIB d'un compte sur lequel effectuait les virements. Mais cet homme dit aussi ne plus se souvenir de quelle banque il s'agissait. Que dit Nicolas Sarkozy là-dessus ?
Déjà, il s'agit d'un RIB, d'une banque et d'un compte qui appartiendrait à Ziad Takieddine, qui là encore serait présent lors de ce rendez-vous. Et là, Nicolas Sarkozy dit c'est un tissu de mensonges éhontés. C'est une formule qu'il aura à plusieurs reprises. Et il dit non, mais si j'avais besoin d'argent pour ma campagne, pourquoi je le mettrais sur le compte de Takieddine ? J'aurais créé un compte spécial. Et il dit voilà, vous n'avez aucune trace d'un quelconque virement. Il parle de fable libyenne et il dit que cet épisode du RIB est là encore un élément de cette fable.
D'après l'enquête, au moins 3 virements en provenance de la Libye sont avérés en 2006, virements destinés à Ziad Takieddine de plusieurs entités libyennes pour un montant total de 6 millions d'euros. Que dit Nicolas Sarkozy là-dessus ?
Selon Nicolas Sarkozy, cet argent que Ziad Takieddine a bel et bien reçu de la Libye, en fait, il l'a gardé pour lui, il l'a détourné. C'est toute la thèse de Nicolas Sarkozy. Voilà, il dit, comme à plusieurs reprises, il n'y a aucune trace que cet argent est sorti. Alors, il est bien rentré sur le compte de Takieddine, mais il n'est jamais sorti. En tout cas, il n'est vraiment pas sorti vers moi et vers ma campagne.
Donc, selon lui, Ziad Takieddine aurait escroqué le régime libyen pour son intérêt personnel.
Oui, c'est ça, vraiment. Nicolas Sarkozy, il cible et il charge à longueur d'audition Ziad Takieddine. Il dit que c'est un fou, un menteur. Il a vraiment des mots extrêmement méprisants envers lui. C'est son idée. Il a gardé l'argent. Il a voulu faire croire qu'il était proche de moi. Certes, je me rends compte qu'il connaissait certains de mes proches, Guéant Hortefeux. C'est une erreur. Il n'aurait pas dû fréquenter un homme pareil. Mais bon, eux, c'est pas moi. Et donc, moi, je n'ai aucun lien avec lui et je n'ai jamais reçu l'argent que lui a reçu des Libyens.
D'après l'enquête, en février 2006, un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, a reçu sur l'un de ses comptes aux Bahamas 440 000 euros en provenance de Ziad Takieddine. Mais pour Nicolas Sarkozy, le lien ne peut pas être fait avec lui.
Oui, au juge, Nicolas Sarkozy dit « Je n'ai plus de relation personnelle avec Thierry Gobert depuis 1996 ». Ce qui est pas si simple, puisqu'on sait qu'il y a eu d'autres rencontres qui ont eu lieu entre les deux hommes. Mais en tout cas, il prend le soin de couper le cordon et de dire que cet argent, bah, parfois, il ne le concerne pas, et en tout cas, pas du tout sa campagne.
Comme pour tout chef d'État, la garde républicaine accueille Muammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République.
La France avait reçu en grande pompe Muammar Kadhafi à Paris en décembre 2007. Timothée Boutry, pour l'accusation, cela pourrait être une façon de remercier le dirigeant libyen.
Oui, parce que c'est l'idée des juges. Ils cherchent à établir ce que le régime de Kadhafi aurait pu gagner en échange de ce financement présumé de la campagne. Et parmi les pistes, il y aurait donc le retour sur la scène internationale du régime de Kadhafi, qui passerait notamment par cette visite dont on se souvient tous.
6 mois à peine après son élection, Nicolas Sarkozy déroule le tapis rouge. La France entière découvre médusée les images de la tente bédouine de Kadhafi installée dans les jardins de la résidence officielle de l'hôtel Marigny.
Nicolas Sarkozy dit non mais attendez, moi mon obsession c'est la libération des infirmières bulgares qui sont retenues à Benghazi.
C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures, mais ces postures, Elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme.
Au cours de ces auditions, il est question d'un autre intermédiaire que Ziad Takieddine, l'homme d'affaires Alexandre Djouri, un habitué de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy.
Au départ, c'est un très très proche de Dominique de Villepin. C'est vraiment un homme plutôt de la Chiraki et qui progressivement va se rapprocher de Nicolas Sarkozy. Il va rendre énormément de visites à l'Élysée quand Nicolas Sarkozy sera président. Il va rencontrer surtout Claude Guéant, dont il est devenu extrêmement proche, et aussi Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises.
Il rencontre effectivement Claude Guéant à l'Élysée 59 fois, 14 fois Nicolas Sarkozy. Et la justice reproche notamment à Alexandre Djouri d'avoir vendu beaucoup trop cher une villa du sud de la France à des Libyens en 2008. Une villa située à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Vente à un fonds souverain libyen. En clair, Timothée Boutry, ce serait, d'après les juges, une façon de recevoir des fonds discrètement, c'est ça?
Oui, en fait, l'idée, ce serait que par cette vente surfacturée de cette villa de Mougins, Alexandre Djouri puisse récupérer de l'argent libyen, en fait. Ce serait une manière de faire parvenir les fonds en France.
Et ce fonds qui a acheté la maison était dirigé par un ami d'Alexandre Djouri, Béchir Salé. Béchir Salé qui est à ce moment-là, en 2008 donc, le directeur de cabinet de Muammar Kadhafi. Et quand la révolution libyenne éclate en 2011, cet homme, Béchir Salé, va être exfiltré de Libye vers la France grâce à Alexandre Djouri, qui est donc un habitué de l'Élysée.
Béchir Salé, c'est le grand argentier du régime libyen. C'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et quand la révolution libyenne va éclater, il va venir en France grâce à l'aide d'Alexandre Djouri, qui est son ami et qui a ses entrées à l'Élysée.
Timothée Boutry, on en revient au point de départ de cette affaire. 2012 et l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, 3 jours avant le second tour et après la publication donc de l'article de Mediapart. Le 3 mai 2012, Alexandre Djouri organise une seconde exfiltration de Béchir Salé, mais cette fois de France vers le Niger.
Oui, c'est un des épisodes les plus cocasses de cette affaire, en fait. Voilà, Béchir Salé est en France. Il est visé par une notice rouge d'Interpol, c'est-à-dire qu'il est recherché par la Libye pour son implication dans le régime de Kadhafi. Et il va être exfiltré discrètement de France grâce à Alexandre Djouri et grâce à Bernard Squarcini, qui est le patron du renseignement intérieur de l'époque. Et ils vont organiser cette exfiltration discrète à bord d'un jet, d'abord au Niger et ensuite en Afrique du Sud, où Béchir Salé se trouve encore actuellement.
Dans le bureau des juges, que déclare Nicolas Sarkozy sur cet épisode?
En gros, Nicolas Sarkozy dit que c'était sans doute pas très bien, mais qu'il n'est absolument pas impliqué là-dedans. C'est pas l'État français qui l'a fait sortir, mais un réseau d'amitié, alors un réseau d'amitié avec des personnes qui sont quand même pas des personnes lambda. Djouri qui est certes un personnage officieux mais qui tutoie les hautes sphères depuis très longtemps, et Bernard Squarcini qui lui pour le coup est un très haut fonctionnaire. Mais Nicolas Sarkozy dit voilà, on peut pas me le reprocher, j'y suis pour rien, en tout cas c'est pas moi qui ai ordonné cette exfiltration.
Timothée Boutry, dans ce dossier, le Journal du Dimanche a publié une série d'articles pendant l'été 2019 qui accréditent la thèse d'une manipulation de la part de Ziad Takieddine.
Il faut bien comprendre que dans cette affaire judiciaire, il y a aussi une affaire médiatique. L'affaire, elle naît des révélations de Mediapart, de ce document sur le projet de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, soit dit en passant, Nicolas Sarkozy a toujours dit que c'était un faux, il a porté plainte, mais Mediapart a bénéficié d'un non-lieu. Donc voilà, même si l'authenticité de ce document peut faire question aux yeux de la justice, voilà, ce n'est pas un faux. Voilà, Mediapart a gagné. Ils ont beaucoup documenté, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de révélations sur cette histoire. Et à partir de l'été 2019, on voit qu'il y a un espèce de contre-front médiatique qui naît par l'entremise du Journal du Dimanche, qui va consacrer énormément de papier à cette affaire pendant tout l'été. La thèse générale va être de dire que, en gros, c'est une escroquerie montée par Ziad Takieddine. En gros, c'est la thèse de la défense de Nicolas Sarkozy.
Le 12 octobre, ce marathon d'auditions, 40 heures au total, se termine. Timothée Boutry, comment on peut résumer la défense de Nicolas Sarkozy?
Nicolas Sarkozy n'a de cesse de dire « Vous n'avez aucune preuve. Où est l'argent? Vous n'avez pas d'argent liquide ou très peu. Vous n'avez aucun virement qui vient vers moi. » Donc, il n'y a rien. Le dossier est vide, il le dit à plusieurs reprises. C'est à se taper la tête contre les murs. Il y a des formules en disant « Mais est-ce qu'il faut que je fasse 3 saltos arrière pour vous convaincre ?» Voilà. Et il dit que, personnellement, ça l'affecte, ça le dégoûte même. Il a des mots très forts, mais il le dit à plusieurs reprises, où sont les preuves, où est l'argent.
Et à l'issue de ces auditions, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour un 4e chef chefs d'accusation, association de malfaiteurs.
Sur les réseaux sociaux, l'ancien chef de l'État réagit.
Voici donc franchie une nouvelle étape dans la longue liste des injustices commises tout au long de l'affaire dite du prétendu financement libyen de ma campagne électorale de 2007. Les Français doivent savoir que je suis innocent de ce dont on m'accuse.
Il n'a pas su convaincre les juges qui l'ont quand même mis en examen. C'est évidemment une mise en examen qui fait mal, puisque l'association de malfaiteurs, ben voilà, ça résonne banditisme. Mais lui continue à dire qu'il est totalement innocent et qu'il va se battre pour prouver son innocence.
Timothée Bautry, finalement, dans ce dossier, est-ce qu'il y a des preuves tangibles ?
Non, c'est toute la question. Il n'y a pas la preuve ultime, il n'y a pas le document qui, il n'y a pas le virement qui. Il y a tout un environnement. En fait, on voit qu'à l'époque, il y avait des liens entre la Sarkozy et le régime libyen, que ce soit par l'entremise de Claude Guéant ou de Brice Hortefeux. Il y a un peu d'argent liquide qui apparaît dans la campagne électorale, il y a la vente de la villa de Mougins. Il y a vraiment un climat, en fait. L'enquête n'est pas terminée. Les juges continuent à investiguer et il y aura d'autres auditions et sans doute d'autres mises en examen des acteurs de cette affaire qui vont intervenir dans les jours à venir.
Merci à Timothée Bautry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Ambre Rosala. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.